Paris, capitale de l'intelligence artificielle. Pendant 3 jours, les meilleurs experts de cette technologie révolutionnaire se réunissent en France. Ce soir, ils dînent même à l'Élysée avec Emmanuel Macron. L'an dernier déjà, le président avait pris part à cet événement, signe de l'importance qu'il accorde à ce dossier.
Je souhaite que la France soit l'un des leaders de cette intelligence artificielle. Je souhaite que l'Europe soit l'un des leaders de cette intelligence artificielle. Nous en avons les moyens et nous allons en créer les conditions.
L'intelligence artificielle est partout aujourd'hui, à l'image de ces enceintes connectées sollicitables à l'infini. Pour trouver une recette, jouer un morceau, donner l'heure.
Alexa, allume la lumière.
D'accord.
Mais au-delà du gadget, le gouvernement veut aller plus loin et lancer un programme de reconnaissance faciale pour les services publics en ligne. Plus besoin de mot de passe, juste d'une caméra. Le visage est scanné et le tour est joué. Un procédé largement utilisé dans des pays comme la Chine. Là-bas, certains policiers sont équipés de lunettes à reconnaissance faciale. Le contrôle d'identité devient automatique et les faits et gestes des citoyens capables d'être traqués en permanence. Alors que les expérimentations se multiplient en France, notamment à Nice, plusieurs élus s'inquiètent.
C'est le pied dans la porte, c'est-à-dire qu'on commence par une expérimentation. L'expérimentation, la CNIL dit oui, mais là encore, on ne sait pas demain où ça s'arrêtera. Donc on reste extrêmement vigilant par rapport à cette question.
Les citoyens doivent-ils avoir peur de l'intelligence artificielle? Sera-t-elle pour eux un outil d'émancipation ou d'asservissement? Comment éviter de tomber dans une société de surveillance?
Et justement, comme avec toute technologie, ne doit-on pas redouter les dérives liées à son utilisation plutôt que l'intelligence artificielle en elle-même? Nicolas Arpajon, est-ce que déjà vous pouvez nous aider à la définir, cette intelligence artificielle? Quand on parle d'intelligence artificielle, de quoi parle-t-on?
Alors déjà, l'intelligence artificielle, c'est un aboutissement, c'est-à-dire que l'on va confier à un algorithme, c'est-à-dire à une formule mathématique nourrie, alimentée par des données qui doivent être nombreuses, homogènes, portées sur une certaine durée, une véritable variété de données de manière à être le plus éclairé possible, et on va faire en sorte de s'appuyer sur cette mécanique mathématique de manière à lui confier la prise de décision. Évidemment, le nombre et les circonstances dans lesquelles on va se fier ainsi à une formule mathématique au final seront assez limitées, et c'est pour ça qu'on va d'abord et plutôt parler de machine learning, c'est-à-dire faire en sorte que une machine soit capable d'étudier des scénarios avec des options, avec des circonstances,
très bien.
Des événements, et faire en sorte qu'on prenne une décision à la suite par un être humain, de chair et de sang.
Admirable définition, très synthétique. Merci pour cette définition. Donc on va se pencher sur le volontarisme, l'ardeur d'Emmanuel Macron et du gouvernement. Ça se traduit en investissement, c'est le chiffre du jour.
1,5 milliard d'euros, voici ce que l'État français compte investir d'ici la fin du quinquennat dans l'intelligence artificielle, d'après Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Didier Bécher, ça veut dire que la France était très en retard dans ce domaine par rapport aux États, par rapport aux grands groupes aussi?
Le problème, en fait, c'est ce qu'on a vu dans la définition, c'est qu'à un moment donné, pour s'assurer qu'on a une intelligence artificielle, de la reconnaissance faciale, par exemple, si on veut une application opérationnelle, il faut qu'on soit sûr que les algorithmes qu'on va utiliser soient éthiques et se soient suffisamment entraînés sur suffisamment de données. Or, aujourd'hui, avec le cadre très protecteur, et heureusement, j'ai envie de dire, c'est ce qui nous différencie d'autres pays, avec le cadre très protecteur, on ne peut pas utiliser les données personnelles n'importe comment. Donc aujourd'hui, si on cherche à savoir est-ce qu'il y a des biais en utilisant de l'intelligence artificielle, et on le voit dans plein d'exemples de la reconnaissance faciale, on sait qu'il y a des biais. Je suis incapable de vous répondre sur la France ou sur l'Europe, puisque très peu de données sont disponibles et très peu de données ont été utilisées pour tourner sur ces algorithmes.
Mais plus largement, les géants de l'intelligence artificielle sont aux États-Unis. Enfin, quels sont les pôles où se dessine l'intelligence artificielle d'aujourd'hui et de demain?
Alors, pour revenir rapidement, l'intelligence artificielle, c'est un concept ancien qui est né dans les années 50-60 et qu'on n'a pas poussé par manque de puissance, de capacité de calcul. Maintenant, on a cette capacité de calcul et comme ça a été très bien dit, le problème étant de le nourrir avec suffisamment de données. Or, il se trouve que vous avez certains États qui sont moins regardants que d'autres quant à l'utilisation de données de leur population, par exemple, ce qui permet de faire de la reconnaissance faciale.
Par exemple, la Chine?
Par exemple, vous avez aussi des structures privées qui, elles, ont accès aux données que vous cédez quelque part, notamment sur de l'image. Ce qui
exemple,
permet
des structures privées
Facebook, quand vous-même, vous allez reconnaître et taguer la photo de votre cousin, votre nièce, votre voisine, peu importe, vous donnez des informations et ça permet de faire tourner une intelligence artificielle. Il faut savoir que toute intelligence artificielle, on la teste à blanc, avant de la déployer. C'est-à-dire qu'on la fait tourner en utilisant des données pour voir dans quelle mesure les algorithmes donc apprenants de machine learning donnent des résultats cohérents, ou du moins cohérents à 98%, pour pouvoir ensuite le déployer. Mais pour ça, il faut avoir les données, la ressource financière, et la ressource aussi d'académiques et de techniciens et d'ingénieurs.
Et c'est ça qui est, c'est ça qui est très important, c'est-à-dire que dans ce plan d'investissement et dans la volonté du gouvernement, c'est de remettre les académiques, les chercheurs français, autour de la table avec les industriels pour s'assurer que, quand on parle de transparence des algorithmes, quand on parle d'éthique, on va se donner des limites ensemble, en connaissance de cause. Les expérimentations qui sont faites aujourd'hui, malheureusement, ne tiennent pas compte de ces limites, ou en tout cas de ces contraintes de transparence ou d'éthique que nous voudrions y mettre.
À quoi va servir ce milliard d'euros et demi ? Moi, je pense où va-t-il aller concrètement ?
Moi, je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est que si on veut aller vers une loi d'expérimentation, hein, encore une fois, pour mettre autour de la table des industriels, des académiques et puis des organes de régulation comme la CNIL, hein, qui a son mot à dire et qui est capable aujourd'hui de dire ça, ça
et
peut être transparent.
Et qui serait entendu éventuellement si la CNIL...
Mais si la volonté politique est là, et c'est ce qu'on essaye de faire, hein, dans, vous pouvez lire mon rapport sur la reconnaissance artificielle, sur la reconnaissance faciale que j'ai rédigée pour l'Office des sciences, c'est exactement la recommandation que nous faisons. Il s'agit de se mettre autour de la table pour faire travailler ces algorithmes et décider ensemble quel cadre d'éthique nous allons poser, et est-ce que, d'ailleurs, Cédric Haut l'a proposé, mettre en place un conseil d'éthique,
le secrétaire d'État au numérique.
Mettre en place un conseil d'éthique, de surveillance, pour s'assurer que ce que nous faisons en France, et nous espérons d'ailleurs en Europe, hein, puisqu'on déborde maintenant notre discussion avec les collègues européens, pour s'assurer que l'Europe puisse prendre une position commune sur la reconnaissance faciale.
Ça existe déjà en France, Sonia ?
Et oui, c'est déjà présent dans notre quotidien. C'est le cas, par exemple, lorsque vous déverrouillez votre téléphone avec votre visage ou bien pour passer la frontière dans certains aéroports. Depuis quelques mois, les expérimentations se multiplient en France et suscitent quelques inquiétudes. C'est le cas de ces portiques à reconnaissance faciale que souhaitent instaurer deux lycées à Nice et à Marseille. La CNIL, que vous évoquiez à l'instant, hein, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le gendarme des données personnelles, a rendu aujourd'hui un avis négatif, mais cet avis n'est que consultatif. En Ile-de-France, la présidente de la région, Valérie Pécresse, voudrait, elle, expérimenter cette reconnaissance faciale dans les transports pour identifier des personnes condamnées pour des faits de terrorisme. Et de son côté, le gouvernement français planche sur une application qui permettra aux citoyens de s'identifier par reconnaissance faciale pour se connecter à des portails de services publics type impôts ou sécurité sociale. Son nom Alicem pour authentification en ligne certifiée mobile. Un recours a été déposé devant le Conseil d'État car la grande question, eh bien, ça reste de savoir ce que deviendront ces données collectées en Chine où cette technologie est très développée. On peut déjà aujourd'hui payer en caisse grâce à son visage ou bien se faire verbaliser en tant que piéton si on traverse en dehors des clous, par exemple. Ici, qu'est-ce qui nous garantit que ça ne va pas se terminer comme en Chine ? Vous parliez tout à l'heure d'un algorithme éthique, mais qu'est-ce que c'est qu'un algorithme éthique ?
On touche vraiment là l'essence du sujet, c'est-à-dire qu'on ne peut absolument pas aujourd'hui mettre sur le même plan les États-Unis, la Chine, la France et l'Europe. C'est absolument impossible. En Europe et en France en particulier, enfin, par déclinaison en France, on a le RGPD.
C'est quoi le RGPD, pardon ?
Donc le règlement qui nous permet de sécuriser toutes les données personnelles. Prenez les États-Unis. Le jour où vous passez votre permis de conduire aux États-Unis, ils passent le permis de conduire assez jeune, hein, aux États-Unis, beaucoup plus jeune que nous, ce jour-là, l'État fédéral récupère toutes les photos des permis de conduire sans jamais demander l'autorisation aux personnes. En France, ça n'existe pas. Vous prenez l'exemple d'Alicem. Alicem, c'est important, il ne s'agit pas de faire de la reconnaissance faciale, c'est dire qu'aujourd'hui, la donnée biométrique de votre visage est celle qui peut garantir votre identité et donc votre identité numérique. Mais on ne conserve rien. C'est comme dans Paraf, on ne conserve aucune donnée. Dès l'instant où le gate s'ouvre à l'aéroport, les données sont supprimées. C'est un élément important.
C'est aussi vertueux que ça, Christine Dugoin-Clément ?
Alors,
parce que là, on entend, c'est absolument angélique, tout a l'air merveilleux dans le meilleur des mondes, mais ça l'est ?
Alors, le problème du côté vertueux des logiciels ou des intelligences artificielles, pour moi, il est de deux côtés. Il est effectivement ce que l'on va vouloir en faire. On a la chance de vivre dans un état de droit qui est respectueux des droits de l'homme, notamment. Il y a, au niveau du Conseil de l'Europe, il y a des rapports qui ont été faits, qui ont pointé d'ailleurs des risques, hein, en disant, bon, voilà, là, on pourrait avoir effectivement un abus d'influence, un abus de sécurité, bon, bref. Il y a aussi autre chose, à mon avis, c'est d'avoir une perception au niveau de l'utilisateur, des citoyens, des habitants, de ce qui pourrait être fait. C'est-à-dire qu'il faut aussi, à un moment, que chacun d'entre nous ayons une connaissance de ce que sont nos données et de ce pourquoi on est prêt à accepter d'utiliser de l'intelligence artificielle et ce pourquoi on ne serait pas prêt.
Il y a un paradoxe tout de même, c'est que toute la journée, nous, en tant que consommateurs, on donne beaucoup d'informations à diverses entreprises privées pour consommer. Et on a, en revanche, très peur dès que l'État met un doigt dans ce genre
alors,
de technologie.
C'est là que j'allais venir avec un raisonnement un peu long, c'est vrai. Mais effectivement, je sais. On a cette problématique-là, c'est-à-dire qu'à partir du moment où, en règle générale, l'usager pense ou a l'illusion que ça ne va servir qu'à lui, que pour son usage propre, très bien. À partir du moment où il a l'impression que ça va pouvoir être donné à une structure potentiellement coercitive, type l'État, là, on est dans un mouvement de grande panique. Alors que paradoxalement, quand vous allez donner tout ce qui vous concerne, vos data, à des structures tout à fait humanistes comme Apple, il y a quand même un biais économique derrière. Donc il y a une utilité de ce que vous allez en faire. C'est pour ça qu'à mon avis, il y a quelque chose qui est important. C'est un, de pouvoir être suffisamment informé et à tout niveau de la population de ce que c'est et de à quoi ça sert, à quoi ça va servir pour pouvoir faire un usage éclairé. De dire là, je veux bien avoir de l'intelligence artificielle.
Nicolas Arpagian, vous évoquiez la nécessité de mettre des juristes et des philosophes ensemble pour réfléchir à ça. Est-ce qu'on n'a pas envie, par moment, quand on vous écoute, on a envie de se dire l'invisibilité devrait être un droit de l'homme au XXIe siècle?
Alors,
et ça ne l'est plus, là.
Et vous avez raison. La préoccupation de la Commission nationale informatique et liberté, c'est toujours le principe de proportionnalité. Est-ce que l'empiètement sur la vie privée est justifié par la qualité, la valeur du service rendu? C'est-à-dire plus de sécurité au sein de la collectivité ou au contraire, une plus juste attribution des droits et des devoirs de chacun. On voit bien que c'est un vrai sujet de société. L'algorithme n'est pas bon ou mauvais par essence. Il est ce que les commanditaires vont en faire. Donc c'est la première chose, c'est pour ça qu'on ne va pas pouvoir qualifier de l'utilité ou de la dangerosité d'un système. C'est vraiment les politiques qui vont y être associées, c'est là où les citoyens sont dans leurs différentes dimensions. Consommateurs, électeurs, producteurs, c'est-à-dire quand ils sont eux-mêmes concepteurs de solutions, et il va falloir réunir dans cette même tête ces différentes actions, ces différentes manières de voir.
Mais éventuellement citoyens, voire manifestants aussi. On voit ce qui se passe à Hong Kong en ce moment. Alors évidemment, on ne peut pas comparer. Aujourd'hui, la France est parfaitement démocratique. Mais demain, si jamais ces systèmes-là s'accroissent dans leur efficacité et tombent dans des mains de régimes moins démocratiques en France, n'y a-t-il pas quand même matière à question?
On est face à une révolution industrielle, très clairement. Et il faut, enfin c'est la recommandation
industrielle. Ou anthropologique
les deux, moi je rejoins tout à fait. Vapeur, oui, bien sûr, mais je industriel parce que c'est une technologie qui est nouvelle, mais moi je rejoins complètement l'avis qu'il faut mettre des philosophes, des sociologues pour réfléchir sur ces sujets. Le Conseil d'État, entre parenthèses, dans son rapport du 3 octobre, recommande à l'État d'expérimenter de plus en plus et de mettre autour de la table toute la panoplie des scientifiques, pas uniquement ceux qui font des algorithmes, mais ceux aussi, les sociologues, les psychologues, les philosophes qui travaillent.
Des sciences dures, mais également des sciences
parce que l'usage... Et ceux qui cherchent à échapper au dispositif, et ceux critiques, j'imagine aussi.
Oui, mais parce que l'usage, en fait, il arrive beaucoup plus vite que la science. Donc on n'a pas un raisonnement scientifique sur ces sujets. Moi, je pense que expérimenter et consulter, ce qu'on recommande dans le cadre de l'intelligence artificielle, c'est justement pour répondre à cette question. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je dis consulter, c'est une consultation citoyenne effective. La consultation en ligne, des réunions publiques, des Français tirés au sort qui vont être formés au sujet, comme les lois de bioéthique, ce serait trop long à expliquer, mais le processus des lois de bioéthique est exactement le processus vertueux qu'il faut reproduire pour l'intelligence artificielle. On prend le temps, on analyse, et ensuite, le travail va à la commission des sciences qui remet un avis en fonction de l'ensemble de ses avis. Il ne s'agit pas d'un référendum, il s'agit bien d'une consultation sur ces sujets. Et si vous intéressez à l'ordre de hiérarchisation que les Français mettent sur ces sujets, des fois, c'est peut-être pas l'ordre politique qui sera choisi ensuite. Mais tout le monde a donné son avis et on peut dire ça, on est d'accord aujourd'hui, ça, on est prêt. Ce qui ne sera pas vrai, d'ailleurs, dans 5 ou 10 ans. Ce qui veut dire que sur tous ces sujets, il faut avoir un processus de consultation qui est régulier.
Peut-être juste deux points rapides. Effectivement, ce que vous dites est très juste, c'est pas bon ou mauvais. C'est comme si vous avez un marteau. C'est très utile pour planter un clou. Le problème, c'est que si vous n'êtes pas conscient, qu'en tapant sur la tête de votre voisin, vous allez lui faire très très mal, vous ne pouvez pas se dire, voilà, là, on ne va pas l'utiliser pour ça. Donc on a cette problématique d'éthique qui doit être développée, et notamment dès le moment où on va créer des principes d'intelligence artificielle pour que ceux qui vont la penser, la concevoir, sachent où est-ce qu'ils vont mettre leurs limites. La deuxième chose, c'est qu'on a la question effective du libre arbitre. Et ça, il faut aussi que chacun puisse avoir cette conscience-là et que finalement l'intelligence artificielle puisse permettre de fournir un nombre de données suffisantes pour permettre un choix éclairé et non pas pour dicter un choix.